Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Fin de semaine de mon 32e anniversaire. On est le 19 janvier pour l'enregistrement de cette émission. Ici Alex Bayergeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFAC 88.3 à Sherbrooke et de Chiz 94.3 à Québec. Vos radios universitaires préférées. Content de vous retrouver cette semaine. Si je me trompe pas, c'est la deuxième fois. Un 19 janvier, un réchaud ou un deuxième service dans ce cas-ci. Particulièrement en forme aujourd'hui. Donc, content de vous retrouver. Avec un peu plus d'actualité chaque jour, c'est bien reparti. Et la semaine se termine particulièrement dans la controverse, disons ça comme ça. Puisqu'au début de la semaine, Pierre Poilievre devait venir faire une opération séduction au Québec. Venir convaincre les Québécois que l'option conservatrice et la meilleure pour une éventuelle élection qu'on va vouloir le plus tard possible pour les libéraux. Pour justement donner la chance à Pierre Poilievre de s'auto-plure, de banaliser comme il l'a fait. Quoique! Donc, en plus de commencer sa semaine avec des problèmes d'avion, lui avec, Pierre Poilievre devait se rendre au Saguenay, chose qui a été annulée. C'est plutôt rendu à Québec, en char, avant de se rendre au Saguenay malgré tout, pendant que le Parti québécois, de son côté, était également au Saguenay. Ne soyez pas surpris. Gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous allez être courtisés dans les prochains mois. Que le PQ, on veut faire une percée, tasser quelques députés de la CAQ. Et la même chose pour Pierre Poilievre, récupérer des sièges du Bloc à son profit. Mais qui dit opération séduction dit se montrer sur son plus beau jour, se montrer d'un œil favorable, donner envie de voter pour soi. Et à la place, pour on ne sait pas trop quelle raison, jeudi dans la journée, Pierre Poilievre s'est mis à attaquer et Bruno Marchand, maire de Québec, et Valérie Plante, mairesse de Montréal, en les traitant d'incompétents. Rien de moins. Chute massive de la construction au Québec, tandis que Trudeau verse des milliards aux maires incompétents. Marchand et Plante qui bloquent des chantiers. L'argent fédéral pour les villes sera lié au nombre de maisons et d'appartements bâtis quand je serai PM, écrivait Pierre Poilievre. À la base, il réagissait à un article d'Ici Québec qui écrivait notamment: au Québec, jamais il ne s'est construit si peu de maisons depuis 1955, soit l'année où les données ont commencé à être collectées. Donc, à la mise en chantier de nouveaux bâtiments, surtout pour du logement accessible, n'allait pas particulièrement bien dans les deux métropoles. Ce que Pierre Poilievre ne dit pas, c'est que Jean Chrétien, il a eu 90 ans, mais ce n'est pas le point. Justin Trudeau ne donne pas, ne signe pas des chèques de sa main personnelle pour aller les mettre, dans ce cas-ci, sur les bureaux de Valérie Plante et de Bruno Marchand. Mais ça s'en va au gouvernement du Québec. Parce qu'on se souviendra qu'il existe une ministre des agents immobiliers, France-Hélène Duranceau. Donc, techniquement, l'argent que le fédéral verse pour la construction passe par le ministère de l'Habitation du gouvernement provincial. Et c'est ce même ministère de l'Habitation-là qui doit répartir les sommes, mais qui a lui-même supprimé des subventions qu'on appelait accès logis pour justement aider à la construction de ces logements à loyer modique, entre guillemets, peu importe ce que ça veut dire modique aujourd'hui, mais tu sais, ce qu'on appelait autrefois des HLM, mais tu sais, d'inciter à la construction de logements qui en valent la peine et non pas des condos de 500 pieds carrés à 800 000 piastres dans les grands centres. Et donc, encore une fois, avec une demi-vérité, Pierre Poilievre nomme des maires en les personnes de Marchand et Plante, ce qui évidemment les a fait bondir respectivement chacun. Valérie Plante, la première, elle-même, en défendant qu'avant de traiter qui que ce soit d'incompétent, Poilievre devrait comprendre qu'au Québec, le financement fédéral en habitation ne passe pas par les villes, donc il n'y a pas de main à main entre le fédéral et les villes, tout en rajoutant le gros bon sens, c'est aussi de comprendre le mécanisme de financement propre à chaque province. Parce que peut-être que ça se fait dans d'autres provinces, mais au Québec, on a un gouvernement qui veut le plein pouvoir là-dessus. Donc l'argent s'en va à Québec, et depuis Québec, il y a une répartition. Où cette intervention-là aurait pu un peu passer dans le beurre et justement dire bah, « c'est encore Poilievre qui se plaint », c'est si son tweet s'arrêtait à des milliards aux maires incompétents qui bloquent des chantiers. Mais là, il décide de personnaliser le débat en nommant sciemment Bruno Marchand et Valérie Plante, qui, de toute façon, administre des villes qui ne sont pas enclines à Pierre Poilievre. Au sens où le nombre de députés dans la région de Montréal et même la grande région métropolitaine, le nombre de députés de Pierre Poilievre en ce moment est de 0 puis une barre. Tandis que dans la région de Québec, oui, une partie de la ville est conservatrice, mais essentiellement, ainsi que la grande région de Québec, si on élargit avec Chaudière-Appalaches, où d'ailleurs sont uniquement les députés conservateurs au Québec, région de Québec et Chaudière-Appalaches. Mais de toute façon, les conservateurs en général n'ont pas voté pour Bruno Marchand. Peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est possible que les deux se sont faits. Mais mon gros feeling, c'est que si on aime beaucoup Pierre Poilievre, on déteste énormément Bruno Marchand aussi du même coup. L'inverse est aussi vrai. Si on aime Bruno Marchand du côté de Québec, on va être un petit peu moins enclin à voter pour Pierre Poilievre et on va peut-être avoir voté libéral, genre dans Louis Hébert et dans Québec. Donc, niveau séduction, c'est assez raté de ce côté-là. Mais il ne s'est pas attaqué non plus à des circonscriptions qu'il avait la possibilité de gagner de toute façon. Il Louis Hébert, c'est au provincial, mais son équivalent fédéral. La partie qui couvre, entre autres, l'université... Non, Élection Canada, Louis Hébert, ça existe aussi. Je me mélange. Louis Hébert au fédéral est plus large, mais Louis Hébert fédéral englobe cette grande partie qui est à Québec et la circonscription Québec. Parce que oui, Portneuf, Louis-Saint-Laurent, Beauport-Limoilou, Bellechasse, Lévis-Lobinière. C'est un petit peu plus conservateur, c'est sûr. Par contre, où on peut déceler cette critique à peine voilée, c'est qu'en plus d'en rajouter, de contredire en plus sur les réseaux sociaux et Valérie Plante et Bruno Marchand en disant « Non, non, j'ai raison », Pierre Poilievre a tenu à féliciter trois maires qui, eux, font bien leur travail. Qui sont ces trois maires qui font bien leur travail selon Pierre Poilievre? Le maire de Trois-Rivières, la mairesse de Ville-Saguenay et le maire de Victoriaville. Comptent en commun les circonscriptions de Ville-Saguenay, Trois-Rivières et Victoriaville. Ce sont trois comtés qui pourraient être enclins à voter conservateur à la prochaine élection, soit les comtés de Jonquière, les comtés de Richmond-Arthabasca, qui est présentement indépendant avec Alain Reyes, mais qui va repasser aux mains conservatrices et qui englobe, comme par hasard, la ville de Victoriaville, et la circonscription de Trois-Rivières, qui a déjà été conservatrice, mais pour laquelle n'avait pas été reconduite à la dernière élection et qu'on avait voté Bloc québécois, mais d'une petite marge d'avance. Donc, essentiellement, le point de Pierre Poilievre, c'était de jeter en dessous de l'autobus et Bruno Marchand et Valérie Plante pour qu'on parle de lui, pour au final s'acoquiner et continuer son opération séduction en disant que les trois circonscriptions sur lesquelles il a un œil pour essayer de peut-être faire des gains à la prochaine élection, c'est de dire que les trois circonscriptions dans lesquelles il pourrait avoir des gains, ben c'est donc ben du bon monde, puis ils sont donc ben bons, eux autres, dans leur job, comparé aux deux maires des deux plus grandes villes de la province. Parce que s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne verra pas Pierre Poilievre dire d'Olivia Chow, mairesse de Toronto, que c'est une mauvaise gestionnaire. Ça, c'est assez impossible. On essaye de faire des gains du côté conservateur à Toronto. Ce que ça dit à Toronto et en Ontario en général. Parce qu'en ce moment, selon les projections de sondage, l'Ontario va donner la victoire à Pierre Poilievre pour qu'il soit en terrain majoritaire. Essentiellement, ce que Pierre Poilievre a fait en accusant et en traitant les maires des deux plus grandes villes du Québec, de plus grosses villes du Québec, ben, deux des plus grosses villes du Québec, parce que techniquement, Laval est plus gros que Québec. Brossard aussi, ou en tout cas à peu près. Mais tu sais, dans le top 5... C'est que Pierre Poilievre a clairement dit « J'ai pas besoin de vous autres. Je vais gagner la prochaine élection puis j'aurai pas besoin des grands centres. Je me fous des grands centres. » Parce que s'il y a quelque chose qu'on peut observer, règle générale, c'est que les conservateurs ne performent pas dans les villes où il y a des petits bastions qui peuvent détonner un petit peu dans la mer de bleu foncé sur la carte électorale. Ce sont les grands centres. Edmonton, que ce soit Toronto, justement, qui est une agglomération rouge pour l'instant, au Québec, la ville de Québec, l'île de Montréal, c'est plus rouge que du bleu foncé, mur à mur. Évidemment, à Québec, nous, on se partage ça avec le Bloc québécois, mais quand même. Fait encore une fois, c'est cette manifestation-là de vouloir faire s'affronter les régions versus les grands centres. Donc, le rural versus la ville, en disant, regardez en ville comment c'est mal géré, mais que dans les régions, c'est tellement mieux. C'est cette dualité-là sur laquelle va jouer Pierre Poilievre et que, justement, ça fonctionne. Parce qu'en ce moment, il est en territoire majoritaire. Mais, règle générale au Québec, à part, justement, encore une fois, parler à sa propre base qui, de toute façon, n'aime pas les « maires de gauche », entre guillemets, parce qu'ils prônent le transport en commun et qu'ils prônent l'utilisation du vélo, que ça fait en sorte que ce sont de mauvais maires et des incompétents, parce que Pierre Poilievre promet, lui, un troisième lien versus les autres qui n'en voient pas l'utilité comme toutes les études d'environnement. Donc, son opération séduction, entre guillemets, est un genre de réussite malgré tout. Mais est-ce que la grande majorité va apprécier que celui-ci décide d'attaquer personnellement des gens? Évidemment que non. La plupart des commentaires sont en faveur de dire « Voyons que vous êtes agressif de même. » Le vrai visage de Pierre Poilievre. Autant que, justement, les gens fâchés, qui sont juste fâchés, eux sont amplement d'accord avec le propos. Parce que eux non plus n'aiment pas spécialement les maires des grandes villes, parce que ces villes-là vont tellement mal depuis que Plante et Marchand sont au pouvoir. Fait qu'il s'adresse à sa base. Et, au passage, donne des nananes en disant que Jonquière, Trois-Rivières et Victo sont donc bien gérés, eux autres. Fait que voilà, c'est subtil. Mais en même temps, c'est subtil comme un garde-robe vitré. Tu sais, il n'y a pas grand cachette. Mais si on lit bien le sous-texte, on comprend peut-être un peu mieux cette idée-là que « Ah oui, je vais attaquer deux maires parce que hi-hi-hi », mais qu'au final, il y avait un autre message en dessous de ça de « Tu sais, Montréal et Québec, prenez exemple sur Trois-Rivières et Victoriaville qui, eux, construisent des bâtiments. » C'est pas tout à fait la même réalité, justement. Enfin, bref, on est là-dedans et ça risque de ressembler à ça à la prochaine élection. Donc, préparez-vous, ça s'en vient. Au moins d'ici l'année prochaine. On l'espère que ça va être en 2025 parce que cette année, c'est comme pas le temps. Peut-être est-ce qu'on serait malchanceux et qu'à l'automne 2024, il y aura un déclenchement d'élection. Mais, encore une fois, l'équipe libérale va s'occuper de faire ça le plus longtemps possible. Le plus tard possible, devrais-je dire. On sera quelques instants au retour, la suite de ce deuxième service de cette semaine. Vous écoutez Le Réchaud sur les ondes de CFAQ et sur les ondes de Chiz. Ça sortait aujourd'hui même, tiré de du tout nouvel album d'Alexandre Poulain. La somme des êtres aimés. Voilà, on vient d'entendre Jolie Françoise, un premier extrait, qui était déjà disponible depuis quelques temps, sauf erreur. Mais voilà, l'album complet atterrissait sur les plateformes aujourd'hui même. Les albums physiques sont sur son site, sauf erreur. Nouvelle qui est sortie dans les dernières semaines et qui, après un énorme questionnement et que finalement on rétro-pédale, le gala des Gémeaux aura finalement ses catégories genrées au sens où la catégorie meilleur acteur, meilleure actrice sera de retour à la prochaine édition. On se souviendra que la précédente édition avait fait un petit peu sourciller plusieurs parce que on avait décidé de retirer la différence entre les catégories. Donc, c'était Meilleur interprète dans un rôle, dans une comédie, meilleur interprète dans une dramatique et meilleur interprète dans une quotidienne. Donc, on voulait faire un petit peu moins de trophées, mais ça faisait en sorte également qu'on avait un petit peu moins de gagnants. Et ça faisait également en sorte que devait s'affronter dans les mêmes catégories, autant hommes que femmes. Donc, on avait peur peut-être qu'il y allait avoir une parité qui n'allait pas se faire ou peu importe. Ça allait de ce côté-là. Mais avec justement ce changement de règles-là, certains avaient décidé de se retirer du prochain Gala des Gémeaux, notamment à nouveau Fabienne Larouche qui va recommencer à boycotter le Gala des Gémeaux. Donc, elle ne sera plus... Stat, notamment, ne sera plus en nomination pour la catégorie quotidienne, ce qui fait également en sorte par la bande que Indéfendable ne pourra plus se présenter non plus parce que la catégorie émission quotidienne perd tout son sens s'il n'y a qu'une seule émission. Donc, on pénalise les deux émissions, entre guillemets, parce que, parce que Fabienne décide de se retirer. Les autres producteurs qui ne voulaient plus s'inscrire, il y avait notamment Alexis Durambeau et Sophie Lorrain, donc des séries comme Mégantic, par exemple, ne pourraient pas être en nomination au prochain Gala des Gémeaux, comme c'était le précédent. Mais si Mégantic sortait aujourd'hui, la série ne pourrait pas être présentée, ou Portrait robot, qui est une autre série, deux, sauf erreur. Donc, ils ne pourraient pas être mis en nomination pour ces acteurs, ces créateurs, parce qu'ils ont décidé de boycotter. Il faut dire aussi que présenter une émission au Gala des Gémeaux, ça coûte très, très cher. Donc, c'était peut-être l'un des autres facteurs qui faisait en sorte qu'on décidait de se poser la question si on continuait à s'inscrire au prix des Gémeaux. Mais, en tant que tel, pour l'instant, il n'était pas question que et Fabienne et Alexis et Sophie Lorrain décident de retourner se présenter. Donc, pour l'instant, ça reste en suspens pour le Gala des Gémeaux de l'automne prochain, à voir ce que ça donnera. Mais on décide de réintégrer catégorie homme, catégorie femme, parce que justement, contrairement à des catégories comme réalisation, auteur, ces choses-là, auteur-autrice, c'est pas la même chose. Interprète masculin, interprète féminin, c'est pas la même chose. On peut pas. Bon, on peut, oui, décider qui est le meilleur comédien, comédienne de toute la gang. Mais c'est sûr que c'est pas la même dynamique. Donc, parce que justement, il y avait, oui, un désir de diminuer le nombre de Gémeaux, parce que ça, c'est vrai qu'il y a trop de Gémeaux, au sens où tout le monde peut se trouver une catégorie dans laquelle essayer d'en remporter un, en télévision surtout, pardon. Ben, dans le cas justement de ces catégories genrées-là, parce que c'est ça qui se fait partout, de toute façon, dans les autres galas, d'avoir catégorie homme, catégorie femme, malgré tout. Même chose en musique. On a interprète féminin, interprète masculin, à la disque, au Québec. Gala du cinéma, on le fait aussi, acteur, actrice, principaux de soutien, etc. Fait que voilà, la question s'est posée. Ça n'a pas été... ça n'a pas été un insuccès, mais ça n'a pas été non plus une grande victoire, disons ça comme ça. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. On a... On a tenté la soupe, on a testé le tout dans la période test qui était le gala de l'année dernière. Mais ce n'est pas... ce ne sera pas grâce à ça que ça va se poursuivre puisqu'on décide de rétro-pédaler là-dessus. Autre question qui a fait un petit peu sourciller également, et en même temps, c'est un petit peu logique. Il y a en préparation un film sur les belles-sœurs. Donc après les nombreuses pièces de théâtre, après la comédie musicale, on adapte et on envoie Les belles-sœurs de Michel Tremblay au cinéma. Ce qui fait en sorte que dans ses interprètes, au casting, on y retrouve notamment Geneviève Schmid et Anne-Élisabeth Bossé. Comme le tournage du film a lieu cet automne, ça fait en sorte que Geneviève Schmid a dû s'absenter de la série Stat, où elle tient un rôle principal notamment, mais qu'elle est réapparue dans les derniers épisodes qui ont été diffusés récemment, parce que là, bon, son voyage en Arabie Saoudite et sa raison de quitter pendant un mois de temps étaient réglés, parce que les tournages des Belles-Sœurs étaient réglés. Mais on se souviendra qu'Anne-Élisabeth Bossé tient aussi un rôle dans une quotidienne, mais du côté de TVA, indéfendable, j'en ai parlé. Mais comme elle aussi a dû s'absenter pendant un mois de temps, son personnage vient de quitter la série parce que les épisodes n'ont pas nécessairement été tournés dans le même ordre qu'ils sont diffusés à la télé. Donc, comme Stat, dans le cas de Geneviève Schmid, elle est réapparue juste avant les fêtes pour justement faire « Oh mon Dieu, elle est revenue. J'ai hâte au mois de janvier. » Bon, ben pour elle, c'est réglé. Mais dans le cas de Indéfendable à TVA, ben le mois d'absence d'Anne-Élisabeth Bossé vient à peine de commencer. Donc, elle sera de retour peut-être... elle devrait être au retour de février. Mais ça a quand même fait sourciller beaucoup de monde de comment ça Anne-Élisabeth s'en va. Elle s'en va en retraite fermée dans le sud. Fait que on part en voyage pour les deux, mais on a réussi à faire fitter ça dans le scénario. Donc, au moins, salutations aux auteurs, autrices d'avoir réussi à placer ça, parce que c'est quand même un petit défi, malgré tout, de pouvoir faire disparaître un personnage principal, surtout pour un petit peu de... un temps considérable, disons ça comme ça. Donc, au moins, pour ça, ça va bien. Ce n'est pas des personnages qui disparaissent pour toujours. Ça reste quand même des personnages qui vont pouvoir réapparaître à un certain moment quand même. Mais c'est sûr que sur le coup, tu fais comme « Ah! » Soudainement, le personnage a besoin de prendre ses distances, de prendre une petite pause dans son quotidien de personnage. Mais bon, c'est les aléas également. Puis évidemment, ben le film des Belles-Sœurs risque quand même d'être important dans la prochaine année, quoique il y aura évidemment d'autres trucs importants au cinéma. D'ailleurs, les chiffres pour le cinéma de 2023 est sorti et un billet de cinéma sur 10 est allé au cinéma québécois dans la dernière année, ce qui est une très bonne chose. C'est sûr que l'année record restera toujours celle de Crazy, où presque 2 billets sur 10 étaient allés au cinéma québécois. 18% des recettes du cinéma étaient pour les films québécois dans cette période-là. Fait que 1 sur 10, après la pandémie, parce qu'il y a eu tellement de films qui sont sortis dans la dernière année, ce sont de très bons résultats. C'est une très bonne année pour le cinéma québécois. Il y a eu énormément de diversité, ce qui est particulièrement bon aussi. Donc, le cinéma québécois va très bien. Et c'est tant mieux pour ça. Par contre, je vais parler de cinéma américain au retour parce que j'avais déjà vu Rue, donc ça ne vaut pas la peine d'en reparler. Donc, on ira parler cinéma en cette deuxième moitié d'émission. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de CFAQ et sur les ondes de Chiz. De retour au deuxième service, mon doux seigneur, qu'on vient d'entendre en musique. La semaine passée, j'hésitais entre les trois mousquetaires ou Aquaman, en sachant pas lequel allait être encore à l'affiche. Finalement, les deux sont encore à l'affiche, notamment au Clap à la Maison du cinéma pour les trois mousquetaires, seule représentation pour l'instant. Non, il y a le Déchute à Saint-Nicolas aussi, mais Aquaman, lui, est encore à l'affiche cette semaine. Bonne annonce tout de suite pour le dernier film de Jason Momoa.
Il y a 4 ans, j'étais perdu. sans emploi. Une âme errante, sans port d'attache. Et aujourd'hui, je suis marié, père de famille, et je changerai ça pour rien au monde. Je sais pas comment te fait, pas. Disons que mon travail était un peu moins stressant que le tien. Oh, et aussi, je me suis trouvé un emploi. Je suis le roi d'Atlantis. Un demi-milliard d'individus, issus de toutes les espèces connues de l'océan, vivent dans cet endroit. Mais certains m'apprécient moins que d'autres.
Je vais tuer Aquaman et détruire tout ce qui lui est cher. Je vais éliminer sa famille et réduire son royaume en cendres.
Nous devons l'arrêter, ou le monde entier risque de s'effondrer.
Je connais quelqu'un qui pourrait peut-être nous aider. Oh, t'as mauvaise mine. Bien joué, petit frère. Tape là-dedans.
Ne m'appelle pas, petit frère.
C'était ton devoir d'empêcher que ça se produise.
Ouais, ben, je déteste ce job. Un vrai roi doit bâtir des ponts, non ? Le voilà, ton pont.
On doit retrouver Manta.
Il a changé. Il est plus fort qu'avant.
C'est le Trident Noir.
Durant le règne d'Atlan, il y avait 7 royaumes. Le Trident était une malédiction qui pesait sur chacun d'eux.
La magie noire du Trident se propage.
Il veut mettre fin à notre lignée.
Je sais pas ce qui nous attend. Mais pas question de léguer à nos enfants un monde sans espoir.
Tu es un meilleur souverain que tu ne le crois. Guide-les comme un roi, et les 7 royaumes te suivront.
Aquaman 2 et le royaume perdu, n'ayant pas réussi à vaincre, à le vaincre pour la première fois, Black Manta, toujours animé par le besoin de venger la mort de son père, ne reculera devant rien cette fois pour vaincre Aquaman. Il est d'ailleurs plus redoutable que jamais, maniant le pouvoir du mythique Trident Noir, qui possède une force ancienne et malveillante. Pour le vaincre, Aquaman se tournera vers son frère en prison Orm, l'ancien roi d'Atlantide. Ils devront allier leurs forces afin de sauver le monde de destruction totale. Précédent film est sorti en 2018. Celui-ci est sorti en 2023, alors qu'il aurait dû sortir bien avant. Il y a eu énormément de problèmes de tournage. Il y a eu la controverse aussi entre Amber Heard, qui jouait la femme d'Aquaman dans le film, et avec Johnny Depp, son procès. On a tenté d'évincer le plus possible Amber Heard du deuxième film, quoiqu'elle avait quand même un rôle important, donc on est obligé de faire avec, mais on sent que dans certaines scènes, elle parlait davantage, mais là, elle se retrouve campée au rôle de figuration dans le fond du décor. Outre ça, c'est pas un mauvais film, c'est pas le pire de la gang, mais ça marque surtout la fin de l'univers de DC, du moins celui-ci, puisque aussi ce qui joue contre Aquaman en ce moment, c'est qu'on a officialisé l'année dernière que cet univers-là allait disparaître de toute façon. Donc Aquaman 2, qui a finalement vu le jour quand même, était le dernier de la série. Donc même la petite scène d'après-générique peut-être a-t-elle été retournée pour justement faire une conclusion et non pas une ouverture, parce que sur le générique d'acteur que j'ai là, il est écrit Ben Affleck, mais Ben Affleck n'y s'y retrouve pas. Batman n'est pas dans Aquaman. Divulgacheur! Mais tu sais, il n'y a rien qui indique une suite ou quelconque, ou ne serait-ce qu'un caméo comme justement Jason Momoa allait faire dans The Flash. L'inverse n'est pas vrai. Donc, Aquaman est vraiment dans son petit monde à lui, un peu comme Thor dans son premier film, qui ne rencontrait pas vraiment d'autres. Ben non, c'est pas vrai. Il rencontrait quand même Coulson et Hawkeye, mais c'était plus subtil. Hawkeye a eu sa série 10 ans après. Fait que à ce moment-là, Thor était encore tout seul. Dans ce cas-ci, Aquaman 2, c'est pas un mauvais film, comme je le disais, mais c'est pas non plus à se garrocher partout. C'est une bonne conclusion pour le personnage d'Arthur Curry, qui est le personnage de Jason Momoa. En même temps, c'est sûr, il est rendu à 46-47. Fait que de repartir un autre cycle de films pour refaire un nouvel Aquaman, les chances sont un peu plus minces, surtout qu'on a déjà annoncé le nouveau Superman et la nouvelle Lois Lane qui ont à peu près ça dans la vingtaine. Fait qu'il détonnerait un petit peu d'être le plus vieux des prochains justiciers masqués. Prochaine Ligue des Justiciers, plutôt. Donc, les chances de revoir Aquaman dans son rôle... Ben, Jason Momoa dans le rôle d'Aquaman, assez mince. Rien n'empêche, par contre, que Jason Momoa joue un méchant dans les prochains du DCU, l'univers DC des films. Mais justement, parce qu'on a officialisé que tout le monde était un petit peu renvoyé, et Gal Gadot, et Ben Affleck, et Jason, et les autres, ben ça fait en sorte qu'on s'attache peut-être un petit peu moins. Peut-être Blue Beetle va être le dernier à survivre, même s'il s'inscrit techniquement avec cet univers-là. T'sais, il aurait été la porte de sortie pour un nouvel univers, mais on ne partira pas de Blue Beetle. Les chances sont assez minces. Dans ce deuxième volet-là, peut-être avoir vu le premier récemment, ça peut aider parce qu'il y a certains personnages qui apparaissent. Puis on fait un petit... Ah oui, on est supposé le connaître, lui. OK, oui. Ah oui, c'est vrai, il était dans le premier film. Heureusement, on met des extraits du premier film parce qu'on avait peut-être tendance à oublier qui ces personnages-là étaient, mais... Je pense qu'on y a pensé aussi à la production parce que justement, c'est ça, des extraits du premier film dans le deuxième, un peu comme l'a fait les Marvel pour ceux qui n'avaient pas regardé les séries Disney+, ben on était conscient que le film sortait peut-être un peu tard, 5 ans plus tard. Fait que non, c'est un bon divertissement. Est-ce que ça vaut la peine d'y aller en IMAX? Bien sûr que non. Quoique les décors sont particulièrement bien, tu sais, il n'y a pas trop d'effets spéciaux un peu mauvais comme certains Marvel ont peut-être tourné les coins ronds. Là, celui-ci, il est abouti. Tu sais, ils ont eu quand même 3-4 ans pour le faire, ce film-là. Fait que, une chance, c'est abouti. Mais en tant que tel, ça va être un excellent divertissement lorsqu'il passera le samedi soir sur les ondes de Novo d'ici 2 ans après une 1000e reprise d'un Harry Potter, toujours sur les ondes de nouveau à la soirée magasin d'animaux. On fait une courte pause au retour. Un autre film au cinéma, toujours à l'affiche, celui du gardien de Beekeeper en anglais. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Train de minuit de la formation La Couleur qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Bande annonce tout de suite de Beekeeper, le gardien. On passe de Jason Momoa à Jason Statham dans ce cas-ci. On reste avec les Jason cette semaine. Bande annonce tout de suite.
Vous êtes un cadeau du ciel, Monsieur Clay. Ce terrain était à l'abandon, vous lui avez redonné vie.
Madame Parker et moi étions amis. C'est la seule personne qui ait jamais veillé sur moi.
Je vois un message qui dit qu'il y a un problème avec mon ordinateur.
Oui, madame, on s'en occupe.
Elle s'est enlevée la vie hier.
C'est une propriété privée ici.
Vous savez ce qu'ils font ici? Ils arnaquent les gens les plus faibles.
Je vais compter jusqu'à 3.
1, 2, 3. Voilà, je l'ai fait pour vous. Je vais réduire cet immeuble en cendres.
Vous attendez quoi pour le foutre dehors?
Vous me dites qu'un seul homme a fait ça. Et tout ce que vous savez, c'est que c'est un apiculteur.
ce genre d'apiculteur ?
C'est pas bon, ça.
Les apiculteurs sont des agents secrets indépendants de tous les services.
Je protège la ruche. Quand il y a un déséquilibre, je le rectifie.
Il y a des lois pour ces choses-là.
Quand elles ne sont pas appliquées, je m'en occupe.
Mes doigts, il les a coupés. Oh. Arrête, non.
Bouge pas. Tout ça, c'est bien plus que du simple hameçonnage.
L'argent est envoyé partout dans le monde. À des gens en finance, mais aussi à des gouvernements.
Toi, t'es un problème. Tu peux être sûr que je suis un problème. Je me suis dit que je prendrais la relève des pompiers.
Quelqu'un peut arrêter ce gars ?
Nous devons le tuer, avant qu'il ne tue assez de gens pour se rendre au sommet.
Du miel ?
C'est inflammable. C'est fou, non ?
Adam Clay vit une vie paisible d'apiculteur en bordure de terrain d'Éloise, une vieille dame, Héloïse plutôt, une vieille dame qui l'a prise sous son aile. Il y a beaucoup de références au monde des abeilles dans ce film-là, donc soyez avisés de certains jeux de mots. Lorsque cette dernière met subitement fin à ses jours après avoir été victime d'une importante fraude financière, Adam déterre son jour d'agent surentraîné d'une puissante organisation clandestine afin de faire payer le prix à tous ceux qui ont causé la perte de son ami. Motivé à remonter jusqu'à la source du mal et ne se gênant pas pour empiler les cadavres au passage au nom de la justice, Adam est dès lors traqué par une agente du FBI et la fille d'Héloïse appelée à remettre en question ses propres allégeances. Motivé à remonter jusqu'à la source du mal, remonter à la reine-mère du problème. Voilà, c'est à peu près le niveau dans ce film-là. C'est un film de série B, oui, c'est un film violent, il y a du monde qui meurt, il y a des connes, il y a tout ça. Mais essentiellement, le gardien, c'est si John Wick était à la campagne. Parce que pour vrai, le parallèle entre John Wick 1 et le gardien, c'est assez similaire. Là, au lieu d'être le chien de John Wick, c'est les abeilles de Adam Clay. Fait que tu sais, il y a des petits parallèles de même, justement. Il part du début. Bon, John Wick tue tout le monde. Adam Clay n'épargne un petit peu plus. Tue vraiment juste les méchants. Fait que ça, pour ça, on peut dire qu'il est un gentil méchant dans ce cas-ci. Ben, gentil héros, peu importe. Tu sais, on va pas là pour réfléchir. C'est le cas de le dire. C'est un film. C'est un film qui s'écoute bien. Tu sais, c'est ça. C'est un film d'après-midi, encore une fois, à la télé, veut pas. C'est efficace, tu sais, dans le genre. Et justement, si on a aimé la série des John Wick, c'est à peu près dans le même genre. Fait que, tu sais, il y a un lien communicant, fait qu'on peut y retrouver son compte. Et ça part d'une vraie affaire. Ça part de ces faux centres d'appel-là qui s'appellent, qui font à croire qu'ils sont Microsoft ou qu'ils sont une compagnie quelconque d'antivirus qui va vous aider à régler les problèmes dans votre ordinateur, mais dans les faits, ils copient vos données, ils vident vos comptes de banque pendant qu'ils vous font à croire qu'ils sont en train de régler le problème de votre disque dur en accédant à votre ordinateur à distance. Fait que, tu sais, ça part d'une vraie problématique, d'un vrai fléau aux États-Unis. Et pas juste aux États-Unis, ça peut être... notamment, il y a beaucoup de centres d'appel en Inde qui se font fermer une fois de temps en temps quand ils se font pogner pour justement faire de la fraude aux États-Unis, de réussir à vider les comptes de banque de pauvres monsieur et pauvres dames qui savent pas trop comment leur ordinateur marche dans vie. Adam Clay, en tant que tel, ben, tu sais, c'est Jason Statham qui est de glace, qui est froid, qui a peu d'émotion, mais qui justement fait le bien malgré tout. Fait que, tu sais, on est de son bord, même si, bon, il est comme la cavalerie à lui seul. Tu sais, il plante une équipe du FBI au grand complet parce qu'il ne laisse pas passer. T'sais, c'est dans la bande-annonce de je vais faire le pompier moi. C'est, cette scène-là est dans la bande-annonce. Fait que c'est pas un gros divulgacheur, mais t'sais, qui réussit à affronter des gangs armés, mais que lui, sa petite veste d'apiculteur. Fait que, t'sais, c'est vraiment ça. C'est tronquer le tirer à quatre épingles de John Wick pour tuer du monde avec Jason Statham en habit d'agriculteur, apiculteur, qui tue du monde. Donc, passer de la grande ville, New York, et l'international, comme dans John Wick 4 à Paris, pour être au Massachusetts, Jason Statham. Fait que, version très américaine de John Wick, quoique John Wick est américain aussi, mais tu sais, version plus locale. Plus agricultrice de John Wick, Beekeeper, le gardien, c'est présentement à l'affiche un peu partout au Québec. Et c'est là-dessus que ça se termine pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service ici même sur les ondes de CFAC 88.3 et de Chiz 94.3. À la semaine prochaine. Salut! On ne remettra pas la chanson. On va mettre une petite musique en attendant. À la semaine prochaine. Salut!